Nouvelle émission Comprendre, prévenir et agir sur les addictions, aujourd'hui sur Radio Ondaine. C'est avec Loireade, représentée par Françoise Rochelmy, administratrice de Loireade pour l'hôpital Le Corbusier de Firminy, et Caroline Guiguet, coordinatrice, que nous allons évoquer le protoxyde d'azote, tristement nommé le gaz du rire. Aussi, pour ce début 2026, nous parlerons du Dry January, le mois de janvier sans alcool. Mais pour débuter, Caroline Guiguet nous présente la nouvelle formule dès lundi de Loireade, un dispositif à destination des personnes qui souhaitent arrêter de fumer et qui évolue pour cette nouvelle année.
Alors, on est assez contente d'annoncer qu'en 2026, il y a de la nouveauté du côté des lundis de Loireade. Donc, on reprend les séances hebdomadaires le lundi de 18h à 19h30 dans les locaux de promotion santé à la terrasse. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est qu'en fait, grâce au dispositif, les personnes qui vont participer à ces groupes, ils auront un accès privilégié vers un autre programme qu'on pilote qui est de l'activité physique adaptée. Donc voilà, ça est un moyen aussi de se remettre en mouvement. Et là, c'est les mardis de 14h à 15h et ça se passe à l'Amicale Laïque Tardy, donc à Saint-Étienne. Donc voilà, ça veut dire qu'ils peuvent déjà occuper et leur lundi soir et leur mardi après-midi. Donc ça, c'est pas mal. Et à partir de juin, on va proposer des ateliers nouveaux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une alternance de séances de tabacologie, de sophrologie et une fois par trimestre de nutrition. Et on va mettre à partir de juin des initiations à la méditation pleine conscience.
Alors, pourquoi modifier ? Alors, j'imagine que c'est peut-être le fait d'avoir usé l'ancien programme et trouver aussi de nouveaux moyens et de nouveaux partenaires.
Alors, j'aimerais bien vous dire qu'on a des nouveaux moyens, mais ça, c'est pas vrai. Ceci étant dit, l'ARS soutient ce programme depuis sa création nous a permis, en fait, d'avoir une certaine pérennité dans notre financement. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Mais c'est surtout que, en fait, les usages et les pratiques changent. Alors, pas en termes de tabac, mais en termes de prise en charge. Et qu'on sait bien que tout ce qui est thérapie psychocorporelle, le sport, la méditation, la relaxation, tout ça, c'est un vrai plus pour les patients dans cadre d'un sevrage tabagique. Du coup, on s'est dit que c'était bien d'apporter un peu de nouveauté. Nous, d'abord, ça nous bouscule un peu dans notre petit ronron. Et en plus, ça permet d'ouvrir les patients sur d'autres choses un peu nouvelles. Alors, c'est des ateliers, ils expérimenteront, ça leur plaira ou pas. Ils viendront ou pas, comme ils le font pour les autres thématiques. Mais voilà, c'était une envie de nouveauté et on n'exclut pas à l'avenir voilà, de proposer peut-être de l'hypnose, peut-être... Voilà, on est preneur. Hein, s'il y a des professionnels de thérapie un peu alternative qui s'occupent du tabac et qui veulent se rejoindre le dispositif des lundis de Loireade, qui prennent contact avec nous, on en parlera bien volontiers.
Alors, l'activité physique adaptée, c'est l'actualité un peu du moment dans ce programme d'arrêt du tabac. Qu'est-ce que c'est ? On ne va pas faire des champions olympiques, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place ?
Alors, en fait, le programme d'activité physique adaptée, il a été développé pour les patients de la filière d'addictologie dans cette logique de se remettre en mouvement, de se reconnecter avec son corps. Donc, c'est un animateur sportif qui est diplômé, qui a une double qualification, on va dire, c'est un prof d'activité physique, mais qui en plus a cette qualification de sport adapté. Le sport adapté, c'est très courant chez les personnes âgées par exemple, c'est vraiment se mettre au niveau de la personne en fonction de ses capacités et lui proposer une remise en mouvement, adapté à ses capacités, à ses envies aussi. Voilà, et du coup, c'est plutôt, en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt sous forme ludique. Ils font des petits parcours, des trainings, des jeux de balles, des choses comme ça. Il y a aussi, on s'appuie sur la dynamique de groupe, parce que c'est des patients et que c'est bien, ils ne se connaissent pas tous. En plus, on est sur un petit groupe, il y a 10 places, donc c'est un petit groupe qui accueille des personnes de 26 à 74 ans. Donc voilà, il se joue plein de choses aussi socialement en termes de médiation par l'activité physique qui sont très intéressants.
Alors, ce mois de janvier porte depuis quelques années un surnom, c'est le Dry January, après ces périodes de fêtes. L'idée est de se passer d'alcool pendant un mois, éviter le vin au repas, éviter les apéros. Alors, Comment vous l'expliquez, vous, de votre point de vue, Loiréade? Qu'est-ce que le, à vos yeux, et finalement, comment vous vantez le Dry January?
Alors, moi, je trouve que ça a véritablement un intérêt, l'intérêt de se tester dans sa relation à l'alcool. Déjà en début d'année, effectivement, on fait plus ou moins des excès. Donc, on expérimente quelque chose, on se pose des questions sur son mode de consommation et on avise après. Ça, cet intérêt-là de vérifier qu'on peut ou qu'on ne peut pas s'arrêter. On n'est pas toujours très au clair avec sa relation à un produit, en particulier l'alcool. Donc, je pense que c'est vraiment un intérêt. L'éclairage qui est fait au niveau des médias amène à ça. C'est quelque chose dont on parle. C'est le pendant du mois sans tabac et c'est quelque chose qui fonctionne.
Alors, se tester face à l'alcool, à quoi on va faire attention? L'envie de boire, changer ses habitudes, expliquez-nous.
C'est-à-dire que on peut simplement se dire que comme on a fait des excès, bon, on va lever le pied pour penser un peu à sa santé, bonne résolution des ménages. Et puis, à ce moment-là, vérifier, se rendre compte que même si on n'avait pas pensé que l'envie d'apéro, 3 jours après la décision ou la rencontre avec des copains, fait qu'on ne va pas tenir. Donc là, je pense que c'est un moment justement pour se poser des questions sur « Ah tiens, ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé, pourquoi ?» C'est ça l'idée de cette question, de voir si on commence à avoir une habitude qui s'installe un peu trop, et puis aussi si, effectivement, de se mettre en arrêt d'alcool pendant un mois pour se redonner, pour voir quels sont les bénéfices de ne pas consommer, d'arrêter les excès, si on se sent un peu plus en forme, si on dort mieux, parce que le sommeil est quelque chose de très impacté, si on est moins fatigué, etc. etc. Donc, à partir d'une expérience, de voir ce qu'on va continuer à faire et de comprendre quel type de relation on a avec le produit.
Alors justement, hein, le Dry January est très marqué hein, dans un calendrier. C'est à moi, qu'est-ce que vous amenez ensuite? Effectivement, j'imagine que l'arrêt total de l'alcool est le plus bénéfique pour la santé. Mais qu'est-ce qu'on y rajoute pour les autres mois de l'année, finalement, après ce mois d'abstinence?
Alors, soit on se rend compte qu'on est assez au clair avec sa consommation et quand on décide de s'arrêter, on le tient sans aucun problème, ce qui peut du coup tout à fait encourager à boire de manière raisonnable, sans problème, par la suite de l'année. Ou si on vérifie, ou si on réalise qu'il y a un souci, de pouvoir aller voir des professionnels pour affiner la question. Parce que c'est plutôt ça l'idée. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'on découvre de soi dans sa manière de consommer. Donc ça peut être de continuer à consommer de temps en temps, hein, quand on en a envie, pour se faire plaisir, parce que c'est quand même aussi du côté du plaisir l'alcool. Donc il n'y a pas de raison non plus de prôner une abstinence totale toute l'année. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je contrôle ce que je fais et est-ce que je me mets en danger, voilà. C'est tout.
Alors, y a-t-il des outils peut-être mis à disposition pour faire marqueur de ce qu'on ressent ou des conseils d'ailleurs? Est-ce que le fait d'écrire ses sensations, alors si c'est une contrainte ou pas, mais est-ce que ça aussi ça peut aider finalement de poser ses constats au quotidien?
Il y a des tas d'outils qui existent. Alors, il y a des outils pour vérifier sa consommation, son éthylémie. Ça existe déjà. C'est un repère. Il y a des tas d'applications aujourd'hui où l'on peut essayer de noter ce qu'on voit, comment ça se passe, ce qu'on ressent avec des explications. Il y a des sites extrêmement bien faits sur les consommations d'alcool. Et puis, pourquoi pas écrire? Pourquoi pas? Et puis, consulter. Oui, tout est possible. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. En tous les cas, se regarder faire et puis en parler autour de soi aussi. En comparant ce qu'on fait avec ce que font ses amis, les difficultés qu'ils ont, je pense que c'est aussi une bonne façon d'opérer.
Alors, l'actualité, c'est le Dry January, c'est aussi ces nouveautés dans les lundis de Loiréade. Et si l'on parle d'actualité en sens large, on a eu des événements, faits divers, dramatiques, qui nous ont rappelé cette pratique-là de prise de protoxyde d'azote. On change de sujet, mais finalement, on est quand même dans quelque chose, un produit en vente libre qui peut avoir des conséquences et qui n'est pas encore forcément reconnu comme une substance addictive. Alors, le protoxyde d'azote, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le protoxyde d'azote, c'est un gaz. À la base, c'est un anesthésiant pédiatrique qui est encore actuellement utilisé comme tel, hein, qui sert aussi à mettre dans les siphons à chantilly. C'est aussi pour ça qu'il est en accès libre comme ça. Alors, au départ, sous forme de petites capsules qu'on trouvait assez facilement pour mettre dans son siphon à chantilly, et qui, petit à petit, a été détourné, comme à une époque, l'hélium aussi était détourné pour modifier la voix. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on trouve des bonbonnes. On les voit, malheureusement, au bord des routes, un peu partout, de plus en plus grosses. Donc, les bonbonnes qu'on croise comme ça au bord des routes, c'est 2 à 300 petites capsules en équivalence. Donc, c'est évidemment pas le même niveau. C'est pas un produit stupéfiant. Il n'est pas classé. C'est pas un produit illicite non plus. Ce qu'on peut dire, c'est que la préfète de région a émis un arrêté préfectoral le 19 décembre dernier, suite notamment à un certain nombre d'accidents mortels ou en tout cas avec des blessés graves, interdisant donc le transport et la consommation, notamment sur la route. Donc ça permet aussi de contrôler et ça permet aussi, dans le cadre des accidents, le dernier qui a fait un mort à Lyon récemment, la personne était sous l'emprise de protoxyde d'azote et c'était au-delà du 19 décembre. Donc ça va être une circonstance aggravante dans l'impact sur l'accident et les causes de cet accident. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la loi. Après, ce qu'on peut dire en matière d'addiction, c'est qu'à ce jour, l'addiction au protoxyde d'azote, c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer dans les consultations. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, les risques qui sont pris quand on consomme régulièrement du protoxyde d'azote, ils ont des effets délétères sur le corps, et notamment au niveau neurologique, et que les atteintes physiques arrivent plus rapidement que l'addiction. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, pour parler d'addiction, il faut qu'il y ait une consommation chronique de 12 mois consécutifs. On peut avoir des troubles de la marche ou des sensations au bout des extrémités qui vont disparaître ou qui vont s'engourdir avec un usage régulier de proto qui peut aller assez vite, en tout cas bien en dessous des 12 mois. Du coup, quand ils consultent, ils arrivent plutôt par la porte des urgences avec des difficultés à la marche, avec des fourmillements dans les mains, des choses comme ça. Donc ça passe pas en fait par la case addicto, ça va directement aux urgences ou en neurologie. Et après, c'est des profils, alors c'est plutôt des gens jeunes, mais pas des ados non plus. Enfin, il y a, voilà, en tout cas, il y a des usages réguliers. On peut dire aussi que c'est un usage très, enfin, l'effet est extrêmement fugace. Ce qui appelle à la reconsommation. Donc c'est aussi pour ça en fait que les consommations s'empilent, parce que ça dure très quelques secondes, donc ils en prennent comme ça, ils les empilent les unes derrière les autres, les consommations, et ça peut avoir les effets que je viens de décrire.
Alors des témoignages disent aussi que finalement ce côté, c'était le gaz du rire, hein, on l'appelait comme ça, ce côté festif se transposait à la maison, dans la chambre. On a eu des témoignages aussi, et c'est ici qu'on peut peut-être faire un lien avec cette notion d'addiction, même si le terme n'est pas associé au protoxyde d'azote.
En tout cas, on va parler de troubles de l'usage, ça c'est sûr, parce qu'on est sur un usage détourné du produit. Sur des consommations initiales, on va dire, on est effectivement sur un gaz hilarant, donc voilà, ils sont morts de rire et voilà, c'est ce qu'ils recherchent. Mais très vite, sur des consommations un peu plus importantes, il va y avoir un effet plutôt hallucinogène et avec des expériences de dépersonnalisation de soi, enfin voilà. Et du coup, ils cherchent autre chose, un côté plus planant, détente, qu'ils peuvent avoir du coup en solo, et c'est un peu là où on commence à s'inquiéter. Pour toutes les addictions, c'est pareil. Quand on commence à consommer tout seul, c'est qu'on n'est plus dans le plaisir dont parlait Françoise tout à l'heure avec l'alcool. Donc il y a effectivement des marqueurs de vigilance. On s'est posé la question à Loiret très récemment pour savoir si on allait faire quelque chose ou organiser quelque chose autour de cette question-là. La décision qui a été prise, c'est qu'en 2026, on est en train de travailler sur l'élaboration de fiches repères, en fait, pour donner des éléments un peu clés, et on va probablement éditer une fiche repère avec la littérature qu'on aura collectée sur la question du proto, du lien à l'addiction et des risques, parce qu'il y a assez peu de choses quand même aujourd'hui.
Alors, peu de choses aujourd'hui. Néanmoins, Loiret en avait déjà parlé il y a quelques années. Comment ça se fait qu'en fait, au niveau national, ça n'est pas pris à ce moment-là. Alors, non pas que votre action n'ait pas été écoutée ou connue, mais est-ce que vous avez écho d'autres régions, d'autres départements et d'autres structures telles que la vôtre qui se sont emparées aussi de cette question à un moment donné ?
Oui, il y a quelques... Alors, dans le secteur de l'addicto, il y en a quelques-uns. Il y a Addiction France qui a sorti un flyer. Il y a une association parisienne aussi d'addicto qui a sorti un petit dépliant. Il y a eu une campagne nationale aussi d'affichage qui a été diffusée avant l'été, il me semble. Donc, il y a quelques éléments. Après... j'ai envie de vous dire, c'est comme le Purple Drink. Il y a des choses qui sont récurrentes comme ça, des phénomènes de mode, on en parle, ça passe, ça vient. Bon ben là, c'était complètement disparu, on en avait parlé il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans, et puis ça avait complètement disparu. Et là, c'est revenu, mais c'est revenu en force. Et la problématique, c'est que les dealers s'en sont saisis et qu'ils le mettent dans leur catalogue de produits et qu'ils ont réussi en fait à pallier les problématiques qui étaient rencontrées par les usagers. C'est-à-dire que on pouvait observer les consommateurs réguliers de proto, on pouvait observer des brûlures au niveau des cuisses, des brûlures de froid au niveau des cuisses parce qu'ils mettent la bonbonne entre leurs cuisses et comme c'est des gaz, du gaz froid à la stimulation de la bobonne, je ne sais pas comment dire, en tout cas, ils se brûlaient l'intérieur des cuisses. Donc, c'était un des signes qui pouvait dire que c'était des brûleurs de proto. Ils ont trouvé le système. Ils ont des cartouches maintenant qui ne produisent plus de froid, qui sont isolées du froid. C'était inodore, incolore, c'était moins fun. Du coup, ils ont intégré des arômes dans les embouts pulvérisateurs. Donc aujourd'hui, il y a du proto goût pastèque. Enfin voilà, donc c'est des rois du marketing. Il faut dire ce qui est. Donc ils répondent à des besoins ou en tout cas à des envies. C'est un peu comme les cigarettes électroniques ou barbapapa, quoi. Ça, c'est un peu la même idée.
Alors, on en reparlera sûrement d'ici quelques semaines, de toute façon, parce que effectivement, c'est un sujet qui mobilise pas mal de personnes en ce moment. Revenons sur les lundis de Loiréade et sur Loiréade en général et ces activités-là, finalement, sur l'arrêt du tabac. Les modalités d'inscription, est-ce qu'on peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année ?
Oui, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment de l'année. Vous passez un coup de fil à Loiréade, vous nous cherchez sur Internet. Sur le site de Loiréade, sur la page d'accueil, vous pouvez vous choisir votre séance et vous inscrire en ligne. Si c'est compliqué, vous nous passez un coup de fil. C'est donc tous les lundis soirs. C'est à 18h, vous pouvez vous inscrire jusqu'à 17h45. Ce n'est pas un problème, on est rarement complet, c'est des petits groupes. À part la seule exigence en fait qu'on a, c'est plutôt pour les séances de sophrologie parce qu'il y a besoin d'aménager un peu la salle, donc c'est des questions logistiques. Mais après, il faut pas hésiter. Et puis je veux revenir aussi sur ce que disait Françoise tout à l'heure par rapport au Dry January, mais aussi sur les lundis de Loiréade, c'est-à-dire que c'est pas seulement un endroit où vous venez parler de votre arrêt du tabac, mais vous pouvez venir aussi si vous êtes fumeur et que vous vous questionnez ou que votre médecin vous a gentiment fait comprendre que ce serait bien d'arrêter en 2026, bah vous pouvez venir en étant fumeur, on ne vous jettera pas de pierre. Vous pouvez venir, pas de problème.